Europe 1. Punchline, 18h-19h.
Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Alain Bauer. Bonsoir Alain Bauer.
Bonsoir.
Bienvenue, très bien dans Punchline. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu.
Ben, j'étais beaucoup absent.
Bon, en tout cas, vous avez un nouveau livre et on est très contents. Au bout de l'enquête, saison 2, les plus grandes affaires criminelles passées au crible avec Marie Drucker aux éditions First. On va en parler, mais d'abord, l'actualité, évidemment, c'est le trafic de drogue, le narcotrafic. Vous connaissez bien, vous avez été auditionné le 29 janvier avant les magistrats marseillais au Sénat. On va revoir ce que vous en pensez, mais j'aimerais qu'on écoute juste le président Macron. Il était hier sur place pendant plus de 3 heures. Il a tenu un discours très volontaire avant une déambulation de 3 heures. Écoutez-le.
Nous sommes à la bataille. Et on n'a pas attendu d'ailleurs ces derniers mois. Et c'est pour ça que je ne saurais, pour ma part, céder à aucun discours de défaite. La situation, elle est très difficile. Elle est très difficile à Marseille, comme dans beaucoup de villes. Malheureusement, de plus en plus de villes, y compris de villes moyennes. Comme elle est d'ailleurs difficile dans beaucoup de villes d'Europe et du monde. La drogue est un fléau mondial, le narcotrafic est un fléau qui est croissant. Oui, la drogue est notre ennemi, nous l'avons dit dès le début avec beaucoup de fermeté, et nous ferons tout pour lutter contre avec efficacité.
Alors, est-ce qu'il y a là la volonté politique que vous réclamiez fin janvier devant les sénateurs, Alain Bauer ?
Alors, comme toujours, la police, c'est deux sujets, l'opérationnel et la communication. Côté communication, tout va bien, la vie est belle et on est passé à un autre niveau de communication. Du point de vue opérationnel, il y a toujours un sujet qui est très français, entre l'opération coup de poing, qu'on appelait dans le temps, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, XXL désormais.
PlaceNet XXL.
Voilà, PlaceNet, qui est à peu près la même chose. Alors, l'opération coup de poing, ça date de la fin des années 70. L'opération PlaceNet date de début des années 2020, au milieu des années 2020, mais en fait, c'est toujours la même chose. La question de ces opérations, c'est qu'elles ont une durée limitée, dans un espace limité, et que tant qu'il n'y a pas de saturation du terrain, c'est-à-dire une occupation longue, lente et minutieuse de reconquête territoriale, quelques heures, quelques minutes après le départ des forces largement engagées dans ces opérations, qui ont une efficacité relative de saisie, de perquisition, de disruption, tout recommence comme avant. Et si vous envoyez, je pense, des reporters sur place, ou si vous regardez ce que les habitants filment eux-mêmes depuis hier soir, on se rend compte que dans la quasi-totalité des espaces, entre guillemets, libérés, ben, ils ont été reconquis ou réoccupés.
C'est-à-dire
et c'est le problème qui est la durée, la durabilité de ce type d'opération qui n'est pas aujourd'hui pensée comme autre chose qu'un coup de poing ou une opération limitée dans le temps. Il faut passer de ce point de vue-là du CDD au CDI, c'est-à-dire une saturation longue du terrain. Il faut entre 3 semaines et 1 mois pour reconquérir un territoire gangréné par la drogue, c'est-à-dire entre 3 semaines et 1 mois pour assécher le trafic, les moyens du trafic et détourner le consommateur. Aujourd'hui, on fait une erreur parce qu'on pense producteur, on pense distributeur et peu consommateur. C'est un sujet pourtant essentiel. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de distribution.
Alors justement, on a entendu Éric Dupond-Moretti dire qu'il fallait absolument taper sur les consommateurs, que fumer un joint, c'est ces mots, hein, le samedi soir, c'est oublier que c'est une trace de sang sur le trottoir. Est-ce que c'est avec des clichés comme ça qu'on va faire reculer la consommation de drogue dans notre pays?
Il vaut mieux qu'ils disent ça que l'inverse. Donc c'est déjà, de ce point de vue-là, un progrès philosophico-conceptuel. C'est plutôt une bonne idée. La question, c'est comment le traiter. Alors moi, pas plus que je pense qu'il ne faut punir les parents qui sont plus souvent licenciés que démissionnaires. Je ne pense qu'il ne faut punir les consommateurs qui sont d'abord des malades. Il y a une vraie difficulté depuis la loi de 70 en France, qui est un texte qui nous a été imposé par le président Nixon parce que la France exportait massivement ses produits stupéfiants aux États-Unis et que ça les rendait, à juste titre, extrêmement agacés. La loi de 70, elle ne fait pas et elle ne sait pas faire la différence entre la lutte contre le deal et la lutte contre la consommation. Elle n'arrive pas à traiter de la partie socio-médicale qui nécessite de réduire la consommation et le deal. Autant on arrive à le faire plus ou moins en matière d'alcool et de tabac, même s'il y a des dérivatifs, même s'il y a de la fraude et de la contrefaçon, et Marseille, malheureusement, est loin d'être isolé comme un havre de paix sur ce secteur-là. Tout à Marseille est un problème du point de vue du deal, de la contrefaçon, de l'occupation illicite, du squat, de l'organisation criminelle. Depuis 100 ans, c'est quand même le seul espace où un kyste criminel s'est enraciné et a pris en otage les habitants d'une ville entière depuis Carbone et Spirito. Ça n'est pas une nouveauté qu'on ne découvre pas cette semaine, cette année, et pas particulièrement de la faute de ce gouvernement. Mais la réponse réelle à la problématique du deal à Marseille, c'est d'intégrer la dimension où il faut taper en même temps et au niveau socio-médical par l'injonction sanitaire qui existe dans le code de la santé publique et par les opérations pénales. Et en fait, on ne tape que d'un seul côté, on ne marche que sur une jambe et mécaniquement, ça pose un problème parce que ça ne résout rien sur le long terme.
Très bien. J'aimerais qu'on écoute maintenant le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur un autre sujet. Le commissariat de la Courneuve qui a été attaqué ce week-end à coups de cocktail Molotov et de tirs de mortier après la mort d'un jeune à Aubervilliers, une cité connexe, lors d'un refus d'obtempérer. Écoutez les mots du préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
J'ai entendu ici ou là des réactions et des commentaires qui m'ont un peu indigné. Pour certains, qui consistaient à saluer l'action qui avait été menée par les émeutiers, je trouve ça tout à fait intolérable et surtout qu'il ait fait le lien avec le décès d'un jeune homme mercredi soir sur la commune d'Aubervilliers, qui était un jeune de la Courneuve, dans le cadre d'une opération de police. Donc ces réactions qui soutenaient les émeutiers d'hier soir et qui proviennent évidemment de l'extrême gauche sont des réactions qui visent donc finalement à les encourager, à les inciter à l'émeute en partant du principe que ce qui a eu lieu à Aubervilliers c'est un acte de police volontaire.
Alors Alain Bauer, là on voit bien comment le préfet de police dénonce la France Insoumise en l'occurrence.
Je crois que c'est Monsieur Poutou plutôt.
Monsieur Poutou aussi, mais ouais. Il y a eu un certain
d'accord,
nombre
bah,
de
d'élus
de la France Insoumise qui ont embrayé. Oui, absolument.
Le député.
Là on est face à un recul de l'autorité en réalité partout.
Alors, il y a une problématique, c'est qu'avant les affrontements entre des policiers et des dealers, des criminels, des bandes, des groupes, etc., se faisaient en général quand la police intervenait au mauvais endroit, au mauvais moment, pour perturber un processus. Et puis, ça a beaucoup évolué, et curieusement, pas seulement contre les policiers, mais aussi contre les pompiers, par exemple, dans des opérations de guet-apens ou d'attaques volontaires et coordonnées avec des effectifs de plus en plus importants. Ce qui est impressionnant à la Courneuve, alors, ce n'est pas le premier commissariat, il y a depuis une dizaine d'années, on doit être au hors émeute généralisée, au 10e commissariat attaqué à coups de mortier. C'est, voire même une prison une fois. C'est l'expansion des groupes organisés, notamment par l'usage des réseaux sociaux, qui viennent participer à l'attaque à coups de mortier, à coups de tout ce qui leur tombe sous la main d'ailleurs, en détruisant les véhicules ou en tentant de prendre d'assaut le commissariat et notamment les armements du commissariat. Et ça existe aussi au moins une fois dans une gendarmerie. Donc il y a une dégradation dans la capacité à l'affrontement parce que pour les émeutiers, la police n'est pas la police, c'est une autre bande. Il y a donc un conflit territorial entre ce qu'ils estiment être deux bandes et c'est le quartier général de la bande adverse. Le vrai sujet, c'est l'organisation volontaire qui peut se faire nonobstant un événement tragique comme la mort d'un jeune homme et un blessé poursuivi ou dans un refus d'obtempérer, ce qu'on avait vu à Nanterre, qui avait provoqué un cycle d'émeutes massives. Mais il y a moins qu'un recul de l'autorité, une perte de contrôle territorial connu depuis longtemps, visible depuis longtemps, mais sous-estimé pendant très longtemps parce que la police qui était passée d'une police d'enracinement sur le territoire à une police d'intervention pensait qu'elle pouvait toujours aller où elle voulait quand elle voulait et qu'il n'y aurait pas de match retour. Là, depuis une dizaine d'années, policiers et gendarmes sont en train de se rendre compte qu'il n'y a pas de lieu sanctuarisé ni d'espace sécurisé pour eux, voilà. Pour leur famille. Ce qui est un autre sujet, et on l'a vu dans l'affaire de Magnanville, y compris dans des opérations terroristes ciblant un père et une mère de famille sous les yeux de leur assassiné, sous les yeux de leur enfant. Donc, ceci modifie considérablement la donne. Force reste à la loi n'est plus un slogan acceptable, ça n'est même plus une injonction, c'est juste un sujet de négociation.
Une question, Jean-Sébastien Ferjou.
Est-ce que, comme vous êtes criminologue, vous étudiez ce qui se fait non seulement en France mais ailleurs, est-ce qu'il y a des modèles qui ont marché? On a beaucoup parlé à une époque de la théorie de la vitre brisée. Exactement. D'ailleurs, ça a un peu reculé aux États-Unis. Qu'est-ce qui marche? Est-ce qu'on a vu ailleurs des États qui, confrontés à des situations similaires, avaient réussi à reprendre la main?
Oui, vous avez d'ailleurs publié chez vous un papier de mon collègue Xavier Hofer sur la situation mise en place par le président Bukele, qui a, avec des méthodes extraordinairement brutal.
Où ça?
Au Salvador.
Salvador réduit considérablement la criminalité en tapant sur l'opérateur le plus intéressant. Alors, en matière de drogue, bah, c'est le consommateur. En matière criminelle, c'est le criminel lui-même. Et avec des méthodes qui ont révulsé toutes les âmes charitables qui peuvent exister, et n'ont pas toujours tort sur l'ampleur des effets collatéraux, a réduit considérablement la mortalité et la criminalité en ce pays sous les hurrahs de la population qui a choisi, malgré la pression, de le réduire.
Quelque chose de plus proche, peut-être,
mais vous
de
avez
ce que dit la France.
Un peu partout, non, mais vous avez un peu partout un choix qui est de considérer que le criminel a une excuse pour être criminel ou il a une responsabilité d'être criminel. C'est un choix philosophique majeur dans la production pénale. Et la production pénale en France, depuis une trentaine d'années, elle vise à alternativiser tout. C'est-à-dire à dire que, en fait, le criminel, par essence, est d'abord une victime et accessoirement un auteur. Et ce problème-là, il a totalement modifié la manière dont nous traitons les choses. Alors, pas que nous soyons laxistes, contrairement à ce que tout le monde raconte, mais nous sommes lents. C'est-à-dire qu'entre le premier acte et le moment où on va en prison, eh bien, le temps est extraordinairement long. Il n'y a pas de rapidité de la décision. Pour prendre un exemple, j'ai jamais eu autant de personnes en prison pour des peines aussi longues et des personnes aussi jeunes. Donc, les magistrats ne sont pas laxistes, mais ils attendent 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 auditions pour tout d'un coup passer à la prison ferme et l'appliquer fermement. Et c'est ça notre problème. C'est qu'entre rien et trop, nous avons un souci d'adaptation et de précision dans l'usage du dispositif. Par exemple, les courtes peines. Nos amis hollandais, Pays-Bas, ont mis en place un dispositif où on fait des courtes peines rapides pour casser le glissement vieillesse-technicité de la criminalité, c'est-à-dire le processus criminel, l'échelle de progression.
Donc on peut avoir des peines de 3-4 jours de prison.
Oui, parce qu'on casse directement le processus, on isole, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'écouteurs, il n'y a plus de génération Y, Z ou je ne sais pas quoi. Et ça a un effet extrêmement rapide sur la capacité de désintégration du processus criminel, comme si tout était autorisé, qu'il n'y avait jamais de sanctions, ou que s'il y en avait une, elle arrivait tellement tard et tellement loin que d'ailleurs on ne la comprenait pas. Voilà, donc on a des exemples, et moi je suis très favorable aux surmesures en matière criminelle. On l'applique sur la quotité de la peine, on devrait aussi l'appliquer sur la manière dont on accélère le processus par l'isolement. Et c'est valable pour les injonctions sociothérapeutiques en matière de consommateurs de stupéfiants qui doivent être traités d'abord comme des malades et des addicts, mais aussi, ça peut être aussi valable pour les primo-opérateurs de la criminalité et de la délinquance, dont on pourrait casser très rapidement le rythme d'entrée dans l'espace criminel. Et vous voyez d'ailleurs assez régulièrement, pardon de le dire très vite, mais que dès qu'ils sont interpellés, notamment des aides mafia et Yoda à Marseille, ils s'effondrent en interrogatoire, découvrant soudain ce qu'est la capacité de la police, justement, à démanteler des réseaux criminels quand elle s'en donne la peine. Mais elle s'en donne la peine pour des choses très importantes et très graves, et en prenant beaucoup de temps d'enquête, et elle a des difficultés à agir très vite, avec notamment une cohérence avec le système judiciaire ou ce qu'on appelle la procédure pénale.
Alexandre de Vecchio.
Alors oui, une question pour revenir un peu sur ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire que les opérations PlaceNet en réalité devraient durer au moins un mois, si ce n'est plus, pour reconquérir précisément les territoires perdus ou les territoires conquis. Est-ce qu'on a tout simplement les moyens matériels? Est-ce que l'État régalien aujourd'hui est assez fort pour le faire? Je suis pas sûr que l'armée soit la bonne solution, mais du coup certains se demandent s'il faut pas ajouter des forces militaires aux forces de police. Comment on fait concrètement pour mobiliser des forces de l'ordre un mois, voire plus, sur des parties entières du territoire?
Alors déjà, il y a un problème moral, de crise morale, sociale, de moyens, vous avez raison, d'équipement. Qui a jamais visité un commissariat, et notamment les vestiaires du commissariat, on sort en se demandant dans quel pays on est et dans quel siècle on est. Donc il y a quand même une désespérance policière qui est considérable entre les arrêts maladie, les départs à la retraite par anticipation, le désarroi des policiers, plus d'ailleurs des policiers que des gendarmes, mais c'est le système organisationnel qui veut ça. On sent bien qu'ils sont démoralisés et désespérés. Et d'ailleurs, ceux que vous invitez ici n'ont pas besoin de moi pour vous l'exprimer. Et c'est encore plus violemment exprimé ou vertement exprimé quand vous allez discuter avec des policiers directement sur le terrain, ce qui m'arrive assez régulièrement. Donc, je crois qu'il y a un vrai problème qui est celui-là. Deuxièmement, nous ne manquons pas de moyens, nous manquons d'une volonté cohérente, pénalo-policière, c'est-à-dire de l'ensemble du dispositif. Je dis pas chaîne pénale, c'est pas joli, mais procédure pénale, pour réaliser ce processus de saturation territoriale. Car quand vous le réalisez véritablement, certes, il y a des effets dits plumeaux, c'est-à-dire que d'autres gens vont ailleurs et vous voyez l'exportation marseillaise vers des villes inédites, hein, Rennes, Valence, des transferts d'intervenants pour tenir les points de deal, pour éviter une trop grande connaissance des services de police. Donc on voit un mouvement de rotation très important des équipes, mais il y a aussi une difficulté qui est que les policiers, pour des raisons, les policiers et la police judiciaire décident de démanteler les réseaux, ce qui est lent, et pas d'empêcher le deal, parce que les gens sont remplacés rapidement. Mais vous saturez le terrain, vous choisissez une logique de saturation progressive du terrain, que ce soit Marseille, Valence ou ailleurs. À partir du moment où vous asséchez le processus, vous avez un problème, qui est qu'est-ce qui remplace la ressource financière qui fait vivre entre 3 et 500 000 personnes en France, qui permet de payer les loyers, qui permet de payer le permis de conduire. Quand vous voyez les procès et les petits cahiers qui sont saisis sur les fours, les points de deal, vous découvrez avec stupéfaction comment sont réinvestis les sommes. Tout ne va pas en Ferrari. Donc il y a une vraie dimension de réorganisation et de restructuration. Une fois qu'on a saturé le terrain, il faut l'occuper de manière pérenne. C'est assez simple, c'est un processus relativement militaire de base, je dirais, mais la police et la justice en ont les moyens. Mais la problématique, c'est que la réponse ne peut pas être seulement la prison. Il y a une autre réponse à traiter. Et dans certains quartiers, vous avez, c'est le cas à Marseille, c'est le squat est aussi un élément qui doit être pris en considération en même temps que
c'est-à-dire
ce qui est indiqué. Bah, vous avez des immeubles complets qui sont squattés. Vous n'avez pas simplement un ou
les
deux.
Les habitants ont été chassés quasiment.
Les habitants ont été chassés, des groupes ont pris le contrôle. Voilà, il faut voir Banlieue 13. Banlieue 13, ce n'est pas un film, c'est un documentaire.
Absolument. En tout cas, merci beaucoup Alain Bauer de cette analyse fulgurante sur l'état de la police et de nos cités. Au bout de l'enquête, c'est votre livre, saison 2, Les plus grandes affaires criminelles passées au crime. Un tout petit mot, mais alors rapide, sur l'affaire Émile, ce petit garçon qui a disparu depuis, je crois, le mois d'octobre, c'est bien cela. Il y a une nouvelle piste qui mènerait du côté de son grand-père, très grande prudence.
Alors, ce n'est pas une grande piste, d'abord parce que tout ça est connu depuis longtemps, c'est juste qu'il y a un événement judiciaire dans une autre affaire qui met en cause le grand-père pour des sujets qui sont d'ailleurs pas finis du point de vue de l'enquête. Donc c'est une sorte d'audition en cours de route. Et cette piste est connue depuis le début comme beaucoup d'autres.
Mais le petit garçon reste introuvable.
Le petit garçon reste introuvable, comme la jeune fille qui avait disparu dans l'Est. Mm-hmm. Vous avez malheureusement une succession d'affaires extrêmement inquiétantes de ce point de vue-là. Qui amènent par leur concentration, leur nombre et le mystère qui les entoure à un certain nombre de spéculations diverses, parfois des grands mouvements de folie dans l'affaire du pont de Ligonnès, par exemple, où on a aussi les mêmes affaires. Tout ça est connu depuis 2012, mais de temps en temps, une petite reprise technique. Après tout, si ceci peut relancer le marché de l'édition, pourquoi pas.
Voilà, et donc on recommande votre livre Au bout de l'enquête, saison 2, aux éditions First. Merci Alain Bauer.
Merci beaucoup.
Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio. Merci. Dans un instant, Hélène Zelani sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari.